Alphonse Allais, Les petits cochons. Une cruelle désillusion m'attendait à Andouilly. Cette petite ville, si joyeuse, si coquette et si claire, où j'avais passé les six meilleures années de mon existence, me fit tout de suite, dès que j'arrivais, l'effet de la triste bourgade dont parle le poète Capus. On aurait dit qu'un immense linceul d'affliction enveloppait tous les êtres et toutes les choses. Pourtant, il faisait beau et rien, ce jour-là, dans mon humeur, ne me prédisposait à voir le monde si morne. Bon, me dis-je, c'est un petit nuage qui flotte au ciel de mon cerveau et qui va passer. J'entrai au café du marché, qui était dans le temps mon café de prédilection. Pas un seul des anciens habitants ne s'y trouvait, bien qu'il ne fût pas loin de midi. Le garçon n'était plus l'ancien garçon. Quant au patron, c'était un nouveau patron, et la patronne aussi, comme de juste. J'interrogeai. « Oh, ce n'est donc plus M. Fourcomine qui est ici. »« Oh non, monsieur, depuis 3 mois, M. Fourcomine est à l'asile de Saint-Sauveur. »« Et Mme Fourcomine a pris un petit magasin de mercerie à Noué, qui est le pays des parents. »« Mais M. Fourcomine est où ? Il est fou ?»« Oh, pas fou, monsieur, non, furieux, pas fou, furieux, mais... » Tellement maniaque qu'on a été obligé de l'enfermer. Mais quelle manie a-t-il ? Oh, monsieur, drôle de manie, monsieur. Imaginez-vous qu'il ne peut pas voir un morceau de pain sans en arracher la mie pour en perfectionner des petits cochons. Qu'est-ce que vous me racontez là ? Mais la pure vérité, monsieur, et ce qu'il y a de plus curieux, c'est que cette étrange manie a sévi dans le pays comme une épidémie. Rien qu'à l'asile du Bon Sauveur, il y a une trentaine de gens d'Andouilly qui passent leur journée avec des habits de pain et à faire des petits cochons, mais si petits, monsieur, qu'il faut une loupe pour les s'apercevoir. Il y a un nom pour désigner cette maladie-là. On l'appelle... Comment diable le médecin de Paris a-t-il dit ? Monsieur Romain, qui dégustait son apéritif à une table voisine de la mienne, répondit avec une obligeance mêlée de pause. Oh, la delphacomanie, monsieur, du nom grec delphax, delphakos, qui veut dire petit cochon. Du reste, reprit le limonadier, si vous voulez avoir des détails, vous n'avez qu'à vous adresser à l'hôtel de France et de Normandie. C'est là que le mal a commencé. Précisément, l'hôtel de France et de Normandie est mon hôtel, et je me proposais d'y déjeuner. Quand j'arrivais à la table d'hôte, tout le monde était installé, et parmi les convives, pas un seul être de ma connaissance. L'employé des ponts et chaussées, le postier, le commissaire et le commis de la régie, le représentant de la nationale, tous ces braves garçons avec qui j'avais si souvent trinqué, tous disparus, dispersés, dans des cabanons peut-être eux aussi. Mon cœur se serra comme dans un étau. Le patron me reconnut et me tendit la main tristement, sans une parole. « Eh bien, quoi donc » dis-je. « Oh, monsieur Ludovic, quel malheur pour tout le monde, à commencer par moi !» Mais comme j'insistais, il me dit tout bas, je vous raconterai ça après déjeuner, car cette histoire pourrait influencer les nouveaux pensionnaires. Et après déjeuner, voici ce que j'appris. La table d'hôte de l'hôtel de la France et de Normandie est fréquentée par des célibataires qui appartiennent pour la plupart à des administrations de l'État, à des compagnies d'assurance, par des voyageurs de commerce, etc., etc. En général, ce sont des jeunes gens bien élevés, mais qui s'ennuient un peu à Andouilly. Joli pays, mais monotone à la longue. L'arrivée d'un nouveau pensionnaire, voyageur de commerce, touriste ou autre, est donc considérée comme une bonne fortune. C'est un peu d'air du décor qui vient doucement moirer à la morne et stagnante de l'ennui quotidien. On cause, on s'attarde au dessert, on se montre des tours, des équilibres avec des fourchettes, des assiettes, des bouteilles. On se raconte l'histoire du Marseillais. Ah, oh, celle-là, la connaissez-vous? Il y avait une fois un Marseillais. Bref, ces quelques distractions abrègent un peu le temps et tout étranger, tant soit un peu aimable, se voit sympathiquement accueilli. Or, un jour arriva à l'hôtel un jeune homme d'une trentaine d'années dont l'industrie consiste à louer dans les villes un magasin vacant et à y débiter de l'horlogerie à des prix fabuleux de bon marché. Pour vous donner une idée des prix, il donne une montre en argent pour presque rien. Les pendules ne coûtent pas beaucoup plus cher. Ce jeune homme de nationalité suisse s'appelait Henri Jouard. Et comme tous les Suisses, Jouard a la patience de la marmotte. Joignait l'adresse du Ouistiti. Ce jeune homme était posé comme un lapin et doux comme une épaule de mouton. Quoi donc, mon Dieu, aurait pu faire supposer à cette époque-là que cette Helvète aurait déchaîné sur Andouilly le torrent impitoyable de la delphacomanie? Tous les soirs, après dîner, Jouard avait l'habitude, en prenant son café, de modeler le petit cochon avec de la mie de pain. Ces petits cochons, il faut bien l'avouer, étaient des merveilles de petits cochons. Petite queue en trompette, petites pattes et jolis petits groins spirituellement troussés. Les yeux, il les figurait en appliquant à leur place une pointe d'allumette brûlée. Et ça leur faisait de jolis petits yeux noirs. Naturellement, tout le monde se mit à confectionner des cochons. On se piqua au jeu, et quelques pensionnaires arrivèrent à être d'une jolie force en cet art. L'un de ces messieurs, un nommé Vallée, commis aux contributions indirectes, réussissait particulièrement ce genre d'exercice. Un soir, qu'il ne restait presque plus de mie de pain sur la table, Vallée fit un petit cochon dont la longueur totale, du groin au bout de la queue, ne dépassait pas 1 cm. Tout le monde admira sans réserve. Seul Jouard haussa respectueusement les épaules en disant: mais avec la même quantité de mie de pain, je me charge d'en faire deux des cochons. Et pétrissant le cochon de Vallée, il en fit deux. Vallée, un peu vexé, prit les deux cochons et en confectionna trois tout de suite. Pendant ce temps, les pensionnaires s'appliquaient imperturbablement aux graves à modeler des cochons minuscules. Il se faisait tard, on se quitta. Le lendemain, en arrivant au déjeuner, chacun des pensionnaires, sans s'être donné le mot, tira de sa poche une petite boîte contenant des petits cochons infiniment minuscules, aussi petits que ceux de la veille. Ils avaient tous passé leur matinée à cet exercice dans leurs bureaux respectifs. Jouard promit d'apporter le soir même un cochon qui serait le dernier mot du cochon microscopique. Il l'apporta, mais Vallée aussi en apporta un. Et celui de Vallée était encore plus petit que celui de Jouard et mieux conformé. Ce succès encouragea les jeunes gens, dont la seule occupation désormais était de pétrir des petits cochons à n'importe quelle heure de la journée, à table, au café et surtout au bureau, et les services publics en souffrirent certainement, cruellement, et des contribuables se plaignaient au gouvernement et ils firent passer des notes dans la lanterne et le petit Parisien, des chargements, des disgrâces, des révocations, et Maillère l'officiel. Peine perdue. La delphicomanie ne lâche pas aisément sa proie. Pis de la situation, c'est que le mal s'était répandu en ville. De jeunes commis de boutique, des négociants, M. Fourquemin lui-même, le patron du café du marché, furent attirés par l'épidémie. Et tout ennuyé périssait des cochons dont le produit poids moyen était arrivé à ne pas dépasser 1 mg. Le commerce chôma, périclita l'industrie, stagna l'administration. Sans l'énergie du préfet, c'en était fait d'andouillis. Mais le préfet, qui trouvait là être M. Rivaud, actuellement préfet du Rhône, pris des mesures frisant la sauvagerie. Andouillé est sauvé, mais combien faudra-t-il de temps pour que cette petite cité, jadis si florissante, retrouve sa situation prospère et sa riante quiétude?